RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
T'as guetté les meufs derrière ou pas?
Princesse Yasmine, t'as Instagram?
C'est grave. Nous écoutons la bande-annonce du film HLM Pussy de la réalisatrice franco-marocaine Nora Elourche.
Insultez vos mères pour que vous intéressiez.
Ma mère, nique ta mère, donne-moi ton 06, ça passe maintenant?
Dans toutes les salles de cinéma en Espagne, à partir du 12 avril, HLM Pussy est un film puissant et vivrant, protagonisé par trois jeunes adolescentes confrontées aux violences faites aux femmes, au système patriarcal, mais surtout trois jeunes femmes qui veulent changer leur réalité.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça?
Zach, il m'a bloqué dans la salle de bain. Et il m'a embrassé sur la bouche.
On peut pas laisser passer ça. On n'a qu'à le filmer. Il n'y a jamais de preuves. C'est pour ça que la justice, elle se fait pas.
Passe la nuit avec moi.
Tout de suite, l'interview à la réalisatrice Nora Lourche.
Je vais faire l'amour comme un ouf.
Dans mes sous la chaîne possible.
À la technique, Lautaro García, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo. Et à la production, Cristina Dorado.
Je voulais juste aider Zineb.
Je t'ai rien demandé, moi.
Supprime ta putain de vidéo.
On peut pas abandonner. Si je la supprime, ils gagnent. Ils gagnent tous.
Il n'y a pas de révolution sans prise de risque, sans violence, sans victime. C'est comme ça.
Révolution de merde, ouais.
L'émission en français. L'actualité du monde hispanophone en langue française.
Nous sommes ici dans une belle journée ensoleillée à Madrid et je suis heureuse d'être en compagnie de la réalisatrice Nora Elourche. J'ai pu voir son film HLM Pussy hier à l'Institut français, un film vivant, puissant, je pense fait de rencontres, qui aborde plusieurs polémiques, beaucoup d'enjeux. Ça va être compliqué de parler de tous ces enjeux qui se mettent en œuvre dans ce film. C'est votre premier long métrage. Et je voulais savoir, parce que d'après ce que j'ai lu dans le dossier de presse, il y a des personnes qui décrivent ce film comme un coming of age. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'en pense que c'est une des descriptions qu'on peut donner à ce film. C'est vrai que c'est un film qui retrace qui parle de cette génération, en l'occurrence là, de trois adolescentes qui ont 15 ans, qui vivent dans ce post-MeToo, avec tous ces mots et ces combats d'adultes qui sont un peu obligés malgré eux de s'approprier. Donc on va suivre justement ce trio d'amitié, d'adolescentes qui va devoir vaincre ensemble ou séparément face à un même combat.
Les protagonistes sont Léa Aubert, Salma Takaline et Medina Diarra. Donc déjà, elles sont fantastiques, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de vous en elles?
Merci beaucoup pour elles, je vais leur dire. À chaque fois, on me dit ça et à chaque fois, je dis « je vais leur dire ». Je leur dis jamais, mais elles le savent qu'elles sont fantastiques. j'ai vraiment mis un peu de moi dans ces trois gamines. Bon, il faut savoir quand même que l'histoire d'Amina, que porte Amina avec cette dualité culturelle, cette quête identitaire, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Je suis très très proche de ce personnage. C'est environ 60-70% de ma vie. Les scènes de famille sont des scènes que j'ai vécues au mot près, au geste près. Donc Amina, voilà, elle a ce côté féministe, ce côté spontané, maladroit que j'ai. Djeneba, elle a ce truc beaucoup plus, voilà, elle est extravertie, elle est drôle, elle a la tchatche, et c'est quelque chose, voilà, que j'ai et que j'ai mis dans ce personnage. Et Zineb, voilà, je lui ai donné mon petit côté naïf, le côté un peu où parfois je peux être trop gentille, et justement c'est la victime des trois, et donc du coup je lui ai mis toute ma charge mentale de victime, on va dire.
vous vous êtes inspiré de situations quotidiennes, comme cette scène où le papa d'Amina lui dit « Pourquoi tu veux apprendre l'arabe ?» Donc des scènes assez violentes d'une façon ou d'une autre. Vous avez, il y a ce court-métrage paru en 2015, ouais. Il me semble, c'est votre premier long-métrage, un processus d'écriture de scénario d'une dizaine d'années. Et à la fois, donc il y a cette quotidiennité qui est en vous, et à la fois, il y a le MeToo, il y a le racisme, il y a toutes ces luttes. Comment vous avez réussi à vous maintenir, entre guillemets, d'actualité, si d'une année à une autre, les choses changent constamment, quoi?
En fait, déjà, même moi, je change. C'est-à-dire que même moi, je mûris sur un certain sujet. Donc le scénario, tant qu'il n'est pas mis à l'image, c'est vrai qu'il change parce que je change, parce que la société change, parce qu'il y a des lois qui changent, parce qu'il y a le MeToo qui est né vraiment en plein milieu de l'écriture de ce scénario. Donc forcément, en fait, on fait des retours en arrière ou on adapte le scénario à la société actuelle, vu que j'ai envie de filmer le vrai, j'ai envie d'être au plus près de l'actualité. Donc je suis obligée de me tenir à la page. Les réseaux sociaux, mais entre aujourd'hui et il y a 10 ans, c'est pas du tout la même ampleur, la même chose. Donc en fait, c'est constamment se remettre à la page, se tenir au courant de ce qui existe et ne pas peur d'avoir de devoir écrire et réécrire et réécrire. Ouais, je sais pas combien de versions de ce scénario il existe, mais il y a des personnages qui sont nés, qui sont morts. Bref, donc oui, et puis en plus il y a plein de sujets de nouveaux sujets qui sont nés malgré moi, enfin de thèmes, parce que voilà, les réseaux sociaux, leur impact, le fait de s'y approprier comme arme, ça n'existait pas avant, donc oui, faut tant que le temps passait et que mon film n'était pas tourné, je me devais de réécrire ça.
Il y a plusieurs déclencheurs dans le film et je voulais maintenant faire un point sur le buzz de cette vidéo que Amina met sur Instagram. Ça m'a fait penser à... Il y a beaucoup de buzz en France en général, je vois de loin, hein, effectivement, mais je pense à la journaliste Rokhaya Diallo.
Oui.
Des harcèlements totaux, et c'est pas la seule, ça sera pas la dernière. Et donc ce qui m'intéresse vraiment sur HLM Pussy, c'est ces deux luttes, donc le féminisme et le racisme. En Espagne, il y a une semaine, il y a eu une vidéo qui a fait aussi le buzz où deux agents de police maltraitent et agressent deux personnes noires dans la rue à Lavapiés. Il y a une manifestation dimanche. Bon, il y a eu une répercussion dans les médias. Pour vous dire, pour vous expliquer un peu le contexte en Espagne, comment vous faites dans ce film pour complémenter sans qu'elle soit si différente à la fois le racisme, le féminisme, à la fois à se rencontre, effectivement, dans ces trois femmes, on voit que le racisme et le féminisme se rencontrent, et à la fois, je trouve qu'il y a encore un écart abysmal entre les deux luttes, des fois. Et quand je vois en France ces cas, comme avec cette journaliste, je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment.
Déjà, en fait, l'Espagne, vous êtes beaucoup plus avancée que nous au niveau.
C'est incroyable parce que beaucoup de mes intervenantes, qu'en matière de féminisme, l'Espagne est avancée.
Mais c'est pas une impression, vous l'êtes en fait. Au niveau du gouvernement, en tout cas, je veux dire, vous faites passer des lois, le féminicide est reconnu, le consentement est reconnu. Nous, il y a l'affaire Depardieu, je sais pas si vous avez suivi ça, mais non seulement le pays s'est divisé, mais le président de la République a quand même soutenu Gérard Depardieu. Donc, à un moment donné, je pense qu'on est à la traîne à ce niveau-là, vraiment, et c'est pour ça que dans le film, elles se saisissent du portable pour se faire justice elles-mêmes, parce qu'en fait, la justice, elle avance trop lentement, ou pas assez sévèrement, ou se fait jamais face à de telles situations. Donc oui, c'était hyper important pour moi déjà de montrer ça, et aussi de montrer l'écart qui peut exister entre plusieurs féminismes à travers cette lutte des classes. C'est-à-dire que Amina, elle est née avec les codes du féminisme, de par sa mère. Elle est née dans une famille où on peut parler de tout. Elle connaît le mot dès la naissance de consentement. Qu'est-ce qu'une agression? Donc forcément, quand il arrive ça à ses copines, elle les aime à la mort. Elle ferait n'importe quoi pour elle, surtout qu'elle sent quand même une certaine frontière qui existe entre elle-même, même si à 15 ans, on n'a pas envie de voir ce genre de choses. Elle le sent, elle n'est pas bête. Donc il y a cette dévotion pour ses copines, et comme elle pense que sa façon de penser et une vision qui se doit être universelle. Enfin, elle, elle a envie de poster parce qu'elle pense que poster cette vidéo va pouvoir sauver les filles. Donc sa pensée est forcément la bonne pour elle. Parce qu'elle n'a pas conscience qu'en face d'elle, elle a Zineb et Djenneba qui, en fait, dans leur quotidien, avant même de se battre parce qu'on est une femme et que c'est difficile d'être une femme dans la société de maintenant, malheureusement encore de nos jours, bah, elles vont se battre parce qu'en fait, il faut qu'elles trouvent comment plus tard elles vont avoir de l'argent. C'est le nerf de la guerre et c'est ce qui les préoccupe. Elles se battent parce qu'il y en a une qui est noire, parce qu'il y en a une qui est arabe, parce qu'elles sont musulmanes. Avant de se dire, je suis une femme et je vais me battre pour ça. Et c'est ce dont parle le film, c'est ce MeToo à deux vitesses. C'est qu'on ne peut pas demander à deux personnes qui ne viennent pas du même milieu social, culturel, financier, de se battre avec la même importance, la même intensité, la même priorité face à un tel mouvement que le MeToo. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas avancer à l'unisson pour se battre ensemble, quoi.
C'est compliqué. En Espagne, je trouve que le racisme continue à être quelque chose de très présent. Je me souviens, quand j'étais à Paris, mes amis étaient Côte d'Ivoire, Pologne, ici à Madrid. Tout le monde était blanc. De Madrid ou bien de la banlieue. Donc il y a encore une lutte à mener, peut-être en matière de féminisme, on est un peu avancé, les congés de menstruels, les règles, tout ça, donc bon.
Oui, c'est vrai ça. Je trouvais ça incroyable, ça dingue, mais génial quoi. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup, beaucoup de racisme. Et moi je sais que femme plus arabe, je vais avoir beaucoup plus de portes qui vont se fermer de base, c'est sûr. Et là, quand le film, pour l'anecdote, la fiche du film est sortie sur les réseaux sociaux. La bande-annonce n'existait même pas encore. Hein. Au bout de 2 heures, il y avait 1000 commentaires racistes du type... C'est pas du tout sur le mot poussi où je pensais que j'allais être attaquée sur le mot HLM poussi, etc. Non, c'était du type... Il n'y a que des Noirs et des Arabes à l'affiche de ce film, il n'y a que des noms à consonance étrangère. Rentrez chez vous, rendez l'argent que vous avez pris pour faire ce film aux Français. Enfin... un déchaînement de haine où je me suis dit oh, « Waouh, ça va être ça aussi ma vie du coup. » Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé.
C'est vraiment comme si c'était la fiction qui tout d'un coup...
Exactement, tout à fait.
Donc vous vous êtes beaucoup battu pendant 10 ans pour trouver du financement, les moyens, premier long métrage, opéra prima, comme on dit en espagnol, c'est votre opéra prima. Et je me demandais aussi, et d'après ce que j'ai pu écouter dans vos interviews, vous avez beaucoup déclaré et souligné qu'un bisou forcé, c'est aussi une agression sexuelle. Et ça, ça a été vraiment une lutte et quelque chose qui a fait que les moyens ne sont pas arrivés avant.
Ne sont toujours pas arrivés. Ce film, il a été fait avec un demi-million et c'est très très peu pour faire un film, croyez-moi. En fait, ouais, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, on me disait souvent déjà... On en a marre des films sur le consentement, les gens vont se lasser, il y en a trop, tout le monde parle de ça maintenant. Donc j'étais là, ouais, mais si on parle de ça, c'est que le problème est encore là, donc il faut en parler, il faut faire des films. Donc ça, je sentais que ça énervait, déjà rien que le thème du film énervait. Et ensuite, on me disait, mais tu peux pas créer un film sur un bisou, parce qu'on, dans le jargon, on appelle ça l'élément déclencheur d'un film, comme quoi l'histoire bascule. On me disait, mais ça peut pas basculer pour un simple bisou, ça va, elle va s'en remettre, la gamine, c'est bon, dans 2 nuits, elle aura oublié ça, c'est pas une vraie agression, faut qu'il la viole directement et tout. Et j'étais là, mais comment on peut me tenir de tels propos encore maintenant? Il y avait des femmes qui me disaient ça aussi, c'est pas que des hommes. Donc, en fait, il y avait un double challenge, c'est-à-dire de ne pas abandonner, parce que franchement, quand vous arrivez pendant 10 ans, vous vous battez pour faire un film et que vous entendez des choses comme ça, vous avez vraiment envie de tout abandonner, parce que flemme en fait de vous battre dans une telle société. Et à la fois, c'est ce qui m'a maintenu en vie, entre guillemets, et je me suis dit, je vais porter ce message, je le ferai, je le coûte que coûte. Et mon vrai challenge, c'était justement de montrer que si un bisou, c'est grave, il fallait que je le fasse ressentir au spectateur. D'où toute cette mise en scène pendant l'agression. Donc ouais, c'était mon vrai challenge et apparemment ça a marché, donc je suis contente.
On va revenir sur les 3 filles, sur le processus de casting qui m'intéresse beaucoup. Comment ça s'est passé? Je sais qu'Amina était la dernière, c'était aussi la plus compliquée entre guillemets à trouver. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur ce casting. Comment vous avez fait pour les mettre en confiance? Parce qu'elles sont jeunes.
En fait, je pense que le fait que je sois une femme, que ce soit mon premier film, elles savaient toutes les 3 combien l'histoire était importante pour moi, combien le message était important. Elles ont très vite compris qu'on n'avait pas les moyens, donc j'avais pas le luxe d'avoir beaucoup de jours de tournage et le luxe de se dire on a 10 plans par scène et 10 prises par plan. Enfin, c'était vraiment, fallait qu'on aille vite et fallait qu'on aille bien. Et en fait, elles l'ont tout de suite compris. Et une fois que je les ai trouvées, donc c'est moi, je recherchais le coup de cœur, je recherchais l'évidence. C'est vrai que je les ai pas trouvées au même moment, mais pour les trois, j'ai eu un coup de foudre. Il y a quand même 900 vidéos de gamines à regarder pour trouver ces trois bouts de chou. Donc une fois qu'elles ont compris ça, en fait, elles ont vraiment été pros et elles se sont transformées en petites adultes pour mener à bien ce film, comme le reste de l'équipe technique a été incroyable. Donc il fallait beaucoup parler et il fallait surtout instaurer un système de confiance. Et c'est vrai que j'ai été très vite un peu, et c'est pas forcément une bonne chose, j'étais très vite un peu la grande sœur. Je me suis vraiment positionnée en grande sœur, ce qui fait que des fois, j'avais pas forcément la casquette réelle quand je leur parlais et je le sentais, que j'avais pas vraiment posé la hiérarchie au bon moment, au bon niveau. Mais non, c'est mes petits bébés, je les aime trop et elles sont fantastiques dans le film et elles ont tout donné et ouais, je leur souhaite une carrière de dingue parce que franchement, elles ont porté ce film, c'est un film d'acteur. Hein. On enlève les trois gamines si on a trois comédiennes qui cassurent pas et que j'ai pas réussi à diriger, clairement le film n'est pas le même. Donc elles portent le film, elles le portent bien et là je les regarde, elles sont belles.
Vous avez aussi travaillé, je sais pas si c'était peut-être une asso, mais aussi en banlieue, donc ça s'appelait Filmer l'avenir.
Oui, tout à fait, Filmer l'avenir. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Salma Takaline. Elle a traversé la pièce, elle avait même pas dit une phrase que j'ai vu cette gamine et je me suis dit, je sais pas encore si je vais faire mon film, mais si je le fais, c'est elle qui doit faire Zineb. Je savais pas si elle voulait être actrice ou pas, d'ailleurs elle voulait pas spécialement être actrice. Mais c'est vrai qu'elle a un rôle complètement compliqué. Après, en fait, cette génération, elles sont nées avec les réseaux sociaux. Donc elles se filment en permanence pour raconter leur journée, ce qu'elles font. Enfin, il n'y a pas un jour où elles se filment pas. Et un jour, pour l'anecdote, mais après le film, je demande à l'une d'elles, alors comment ça va? Et elle me répond en vidéo. Mais vraiment, je me dis, ça va pas du tout parce qu'aujourd'hui, nanana. Et j'étais là, waouh. donc c'est vrai que, donc en ça aussi, je trouve qu'elles savent comment se placer par rapport à la caméra, elles connaissent leur meilleur profil là ou pas du tout. Enfin, et donc de film l'avenir, donc voilà, donc j'ai rencontré donc Salma là-bas. Et en fait, c'est un dispositif où on apprend à des jeunes issus de banlieues, issus de milieux défavorisés, à faire des films. Donc on amène le cinéma à eux parce que c'est souvent des milieux où on se dit que les portes vont être fermées. Et donc on est tous autodidactes, tous les intervenants, pour leur prouver qu'en fait, si on peut défoncer les portes, qui bien sûr seront fermées, et encore plus à double tour pour nous, mais voilà, leur prouver que c'est possible, leur déposer une petite graine pour que quand on parte, voilà, on fait un atelier en deux jours, on apprend qu'est-ce qu'un film, on crée une histoire, on le tourne, on le monte, tout ça en deux jours, donc ça va très vite. Mais le but, c'est que quand on parte, ils se disent « Ok, c'est possible », parce qu'ils ont tous un portable aujourd'hui. Donc, c'est possible de raconter des histoires, de faire des petits films.
Et je voulais passer maintenant à cette quatrième fille qui apparaît aussi dans le film, Anne.
Merci d'en parler.
Parce que je trouve qu'elle est très importante dans la vie d'Amina, dans cette nouvelle amitié. On ne sait pas si elle va faire partie jusqu'à la fin de ce groupe, mais en tout cas, elle est intégrée d'une façon très naturelle, mais à la fois avec beaucoup de tension, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un autre lycée, avec plus de moyens, blonde, blanche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rôle d'Anne et qu'est-ce que vous vouliez évoquer ?
Je voulais montrer que ça se passe partout, tout le temps, dans tous les milieux. Et Anne arrive à un moment où Amina perd un peu pied, où Amina est désolidarisée de ses copines qui lui reprochent d'avoir posté la vidéo sur les réseaux. Et là, il y a ce personnage de Anne qui arrive et qui lui dit que son combat est noble, son combat est juste et qu'il n'y a pas de révolution sans victime, sans prise de risque. C'est ce qu'elle lui dit. Et voilà, et ce personnage permet justement de montrer que c'est justement en étant ensemble de toutes les catégories sociales, culturelles, financières, on a toutes vécu des choses comme ça. Et si on se comprend les unes les autres, Amina est quand même le pont entre ces deux mondes, si on se comprend, si on s'écoute, si on se découvre, il n'y a que comme ça qu'on peut s'unir face à une même lutte. Et donc c'est ce que ce personnage, cette quatrième poussie, comme je l'appelle, voilà, sert l'histoire, c'est en se disant... Ok, là-bas aussi ça se passe, bien sûr que là-bas aussi ça se passe, Et la lutte est commune, enfin peut devenir commune, voilà, pour ces quatre petits bouts de femmes.
On a un petit spoiler. Donc l'agresseur de Zineb est battu par son grand frère. Et ça m'a surpris, ce choix, qu'il doit quitter la banlieue à cause de de ce qu'il avait dit sur son grand frère. Il est battu par lui, un homme plus âgé, plus fort que lui. Donc il y a encore ce rapport physique, de corporalité, d'homme. Il n'y a pas d'intervention de la police, de l'école, des parents. Il y a un vide total.
Gros spoil, là, quand même. Faut oser. Ouais, mais en fait, c'est un gamin qui vivrait à lui-même. C'est un gamin qui justement, qui n'a pas eu l'éducation du non, du consentement, et qui est nourri par cette société patriarcale, parce que justement, il n'a pas eu des parents, en fait, avec lui. Il a eu seulement un grand frère qui est complètement déraciné de la société, du monde, en fait. Donc, et c'est son seul modèle. Donc oui, ils ont réglé ça entre frères et frères de la manière la plus violente, à l'abri de tout regard. Et de toute façon, ni l'un ni l'autre n'allait porter plainte. Donc, ça s'est réglé de façon très mal, dans la violence, parce que les mots, tout le monde ne les maîtrise pas. Et ouais, c'était un peu la manière de boucler la boucle face à une violence qui, pour l'instant, dans les gestes, l'avenir et la violence est là aussi, et entre les hommes.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, c'était très agréable.
Sexo underground, el baja down down, a comerme el booty hole brown. Dijo, ay qué rico mami, quiero otro round. Dime papi, ¿qué tú necesitas? En Miami tengo lo que te excita. Conmigo no necesita la visa. Te llevo de viaje, este pussy tiene guita.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieur, Espagne.
Le Congrès des députés a protagonisé une image rarement vue avec l'unité de tous les groupes sauf la droite radicale de Vox pour soutenir le débat parlementaire sur la régularisation de 500 000 migrants sans papiers.
C'est une unité inouïe au sein de la Chambre basse du Parlement espagnol, une initiative législative populaire avec presque 700 000 signatures qui a réussi à mettre d'accord presque tous les groupes politiques pour commencer à gérer la régularisation de 500 000 migrants arrivés irrégulièrement en Espagne avant novembre 2021. Ainsi, l'Espagne veut aborder le défi de l'immigration irrégulière d'après une logique basée sur la durabilité.
Dans l'autre chambre du Parlement, le Sénat, l'Amnesty protagonise toujours le débat et le Parti populaire a annoncé qu'il va utiliser sa majorité absolue pour déclencher un conflit intercaméral.
L'activité parlementaire est très intense dernièrement. Le Parti populaire veut utiliser sa majorité absolue au Sénat pour faire une demande au Congrès des députés pour retirer la proposition de la loi d'amnistie. Une fois reçue la demande de la Chambre haute, la Chambre basse aura 30 jours pour se prononcer sur elle. Si cette demande est refusée ou n'est pas répondue, la question pourrait même arriver au tribunal constitutionnel.
Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, était mercredi matin au Congrès des députés pour présenter les conclusions de la dernière réunion avec le Conseil de l'Europe et pour faire un compte rendu de son dernier voyage au Maroc.
Necesitamos, señorías, reforzar nuestra capacidad de disuasión. Esto es evidente. No para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados.
Sánchez a réaffirmé le besoin de l'Espagne de renforcer l'industrie de l'armement national, non pour escalader la guerre ou être craint, mais pour être respecté. Il a aussi encadré ce besoin dans la contribution à la défense de l'Union européenne et la démocratie. Le président a aussi eu un mot pour la Palestine.
Porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia.
D'après le chef de l'exécutif, la reconnaissance de la Palestine s'encadre dans les besoins géopolitiques de l'Europe et elle est indispensable si l'Union veut vraiment aider le peuple palestinien. En début de semaine, nous avons aussi sur que le gouvernement va interdire les visas dorés dans le but de démocratiser l'accès au logement et de contribuer à baisser les prix dans le marché immobilier.
Ces visas dorés permettaient à des ressortissants de pays tiers d'obtenir un visa de résidence familiale pour une voie beaucoup plus rapide, moyennant l'investissement d'au moins 500 000 euros en biens immobiliers. La mesure a été mise en place par le gouvernement du Parti populaire en 2013 et à peu près 14 000 immeubles ont été achetés selon ce régime, apportant environ 10 000 millions d'euros en investissement immobilier.
Aux États-Unis, le président Joe Biden commence à changer sa position en public vis-à-vis de l'Israël et sa stratégie dans le cadre de la guerre à Gaza.
À seulement 7 mois des élections présidentielles américaines, Joe Biden s'éloigne des positions les plus belligérantes et commence à critiquer publiquement la stratégie de Netanyahou. Son soutien à l'exécutif israélien lui avait apporté une mauvaise presse pendant longtemps. De ça se découlent deux conséquences, l'affaiblissement de la position de l'Israël face à l'opinion publique internationale et la recherche d'une plus grande popularité de Biden aux États-Unis vis-à-vis de la période préélectorale.
Côté culture, ce mardi est annoncé à l'Institut français de Madrid au choix de l'Espagne du prix Goncourt, un des prix littéraires les plus importants de toute la francophonie.
La ganadora del Goncourt espagnol, la Legión de España 2023, ha sido Veille sur elle de Jean-Baptiste Andera.
L'Espagne a répliqué le choix du Goncourt français et a désigné « Veillez sur elle » de Jean-Baptiste Andrea comme le choix espagnol du Goncourt 2023. Le tribunal, composé par plusieurs universités espagnoles et présidé par l'écrivain espagnol Pablo Martín Sánchez, a valorisé la capacité de ce roman de mélanger la réalité et la fantaisie, la tristesse et la tendresse, et l'élégance et ses nuances. Le président de l'Académie Goncourt, Didier Decoing, a parrainé l'événement par sa présence.
« Je vais bien parce que je suis dans un pays que j'aime, que ce matin on a parlé de littérature et que toutes les journées on va parler de littérature. » Et que j'ai vu des jeunes voter avec conviction et passion pour un roman, bon voilà, ça me comble.
Monsieur Decoing se disait comblé, il nous a aussi dit pourquoi, à son avis, il est important de donner la parole à l'Espagne dans les prix littéraires français, comme c'est le cas du concours.
Plus qu'une complicité, une connivence culturelle entre la France et l'Espagne.
À seulement 2 semaines de la journée du livre, l'Espagne et la France manifestent leur choix dans cette édition du concours.
Dans le sport, mardi soir se tenait le match d'aller des quarts de finale de la Ligue des Champions pour le Real Madrid.
Le score final était de 3 partout après 90 minutes de pure intensité, pendant lesquelles nous avons pu voir beaucoup de buts, d'occasions et de spectacles. Ce résultat laisse l'éliminatoire ouverte et les Blancs devront tout donner dans leur match de retour à Manchester pour obtenir une place dans les demi-finales. Les buteurs pour le Real Madrid étaient Rodrigo Valverde et Ruben Dias contre son propre camp, tandis que pour le Manchester, c'était Bernardo Silva, Phil Foden et Guardiola.
La sélection de football féminine de l'Espagne s'impose 3-1 à la République tchèque.
Les buts ont été marqués par Maria Mendez, Jenny Hermoso et Mariana Caldente. Les Espagnols sont en première de leur groupe avec 2 victoires et 6 points. Ils ont gagné tous les matchs de la phase de qualification pour la Coupe d'Europe et le prochain sera le 31 mai contre le Danemark.
Un très grand merci à la réalisatrice Nora Elourche pour son temps et sa bienveillance. HLM Pussy vous attend dans les salles de cinéma en Espagne à partir du 12 avril.
À très bientôt, chers auditeurs et auditrices de l'émission en français. On se retrouve à la même heure samedi. Bye bye.
Ciao.
Tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. Solo de pan vive el hombre y no de cosas vivo yo. Solo de errores se aprende. Yo sé que estudió mi corazón. Que el invierno perdone un rosal. No puedo pedir a los olmos que entreguen pedras. No puedo pedirle a lo eterno, simple y mortal, y andar arrojando a los cerdos miles de pelas. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Tortura perderte.